Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-uppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré pendant le confinement, à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci de votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Juan Arbelaez, le chef cuisinier de 6 restaurants, si je ne me trompe pas, Juan, c'est bien ça?
Ouais, on devait faire 4 ouvertures cette année, mais finalement, à cause de la situation, on a dû les décaler, mais ouais, pour l'instant, on en a 6.
Ouais, si, bon, écoute, on verra, parce que ce n'est peut-être que partie remise.
Bah oui, je pense que c'est un challenge pour nous, c'est une mauvaise période à dépasser, mais on va pas lâcher l'affaire, on va continuer.
Bon, tu sais que j'avais eu du coup, moi je t'avais découvert lors d'un match de rugby, déjà, ça c'est vrai. On avait vu un match au Stade Arena ensemble, et puis du coup après je m'étais intéressée forcément à ta cuisine, et puis après j'avais même amené l'équipe de Toulouse, Stade Toulousain, au Yaya, je m'en rappelle, et j'avais adoré. Et je me suis dit que voilà, que tes plats nous faisaient voyager, mais aussi que tu cuisinais responsable et que bah, comme tu le sais, la thématique de l'empreinte, c'est vraiment cette consommation responsable où le consommateur est au cœur de son assiette, on va dire, et qu'il maîtrise. Mais toi, du coup, tu encourages et pars aussi ta notoriété, puisque t'es quand même assez présent et assez visible sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Tu inspires une génération et c'est pour ça que je tenais à t'avoir dans l'empreinte. Donc, j'ai envie que tu me parles un peu de tes valeurs, justement, en matière de cuisine. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chef cuisinier? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir avoir ce type de cuisine? Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas du tout? Ça, finalement, c'est une prise de conscience que tu as eue. Voilà, raconte-moi tout.
Écoute, déjà merci, je suis ravi d'être invité de l'empreinte et je suis très très content parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, comme tu le dis très bien, c'est un des c'est ce qui me fait aujourd'hui bouger et tout ce que je fais, ce que j'entreprends dans mon business et dans ma vie au quotidien est très axé sur l'écologie et notamment laisser une empreinte carbone, une empreinte qui soit plus légère, qui soit le moins présente possible et laisser une planète plus saine aux gens et aux générations qui suivent. Et en fait, d'où ça vient, c'est difficile à dire. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père fait son propre compost. Il a lâché.
C'est génial.
Bah ouais, c'est un ancien avocat. Aujourd'hui, il a tout lâché pour faire des fruits et légumes en biodynamie dans une terre à 5 heures en voiture de Bogota. On a toujours aimé la nature. Nos vacances ont toujours été proches de la plage, dans des lieux très sauvages. Moi, je pense que ça vient de l'enfance. Ça s'est renforcé après avec mon métier où en France, on a une philosophie d'un savoir-faire et du producteur. Quand on rentre en cuisine, on se rend compte que la restauration et les chefs sont un peu toujours à la quête du produit le plus propre, le plus beau, le plus respectueux. Et du coup, je suis tombé aussi un peu dedans et ça s'est reconfirmé une fois que j'ai rencontré ma femme qui a une qui a des valeurs de respect de la terre, de durabilité, de respect de la planète très ancré en elle. Et je pense que ça c'était le dernier coup de la stockade pour
ta femme qui est Laurie Tillman, pour ceux qui ne savent pas.
Et qui est une grande amoureuse des océans, de la nature. Et voilà, on partage ça aujourd'hui. On partage les ramassages de plages, on partage les associations, l'union avec des associations comme Bloom, comme No More Plastic, avec plein d'acteurs de l'écologie avec qui on travaille aujourd'hui. On est très contents de nous faire en couple, donc c'est d'autant plus fort.
Et je crois même qu'elle fait partie d'un de tes restaurants maintenant, Laurie, non ? Je me trompe ?
Marty, je la laisse pas toute la journée en déco là-bas, mais...
alors, c'est la déco. Alors, si vous voulez voir Laurie Tillman, elle est en déco.
On a, dans toute cette philosophie, en fait, de mieux manger, de rationaliser le pourcentage de viande qu'on met dans nos assiettes, d'augmenter le pourcentage de fruits, légumes et céréales, dans une optique aussi de baisser la quantité de produits laitiers dans notre consommation quotidienne. Voilà des choses qu'on entreprenait, nous, dans notre, comme je te disais, dans notre vie quotidienne. On a décidé de le mettre à l'épreuve dans un restaurant à échelle professionnelle. Et aujourd'hui, on est très contents. Vida, c'est un restaurant qui se porte hyper bien. C'est un resto où on vient, en général, quand on parlait de cuisine santé ou cuisine où se faire du bien, on pense à que c'est pas bon. Et en fait, nous, on voulait que les mots d'ordre, la philosophie du restaurant soit se faire plaisir en se faisant du bien. Et on a ouvert ce restaurant, on est associés aujourd'hui tous les deux. C'est elle qui décide un peu les produits par rapport à la saisonnalité, tout ça, est-ce qu'elle a envie de manger. Nous, derrière, avec les équipes, avec Tania en cuisine, on réfléchit aux cartes. Avec François, on réfléchit un tout petit peu aux cartes. Et derrière, on les met à disposition de tous nos clients. Et c'est marrant parce que j'ai des retours très féminins, des filles qui veulent se faire du bien, qui sont très contentes. Mais j'ai également le retour des gars qui sont peut-être des fois des gros bouffeurs de steak, et on arrive à les rendre heureux dans ce restaurant. Donc voilà, c'est pas une maison à oiseaux, un restaurant où on mange que des graines. C'est un lieu où on peut quand même kiffer.
Mais justement, moi, quand j'ai amené le Stade Toulousain là-bas, on leur a quand même servi du poisson. Je sais pas si tu t'en souviens. Et c'est les premiers à avoir dit, la vache, on n'a pas mangé de viande ou très peu. Et en fait, c'était super bon. Donc, en fait, t'arrives à convertir même des vrais viandards, tu vois. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais, l'idée, c'est pas forcer les gens à aimer plus de légumes, plus de fruits, plus de... Non, l'idée, c'est pas les obliger. C'est les faire goûter et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a du goût partout, il y a du plaisir partout, les bons produits font la bonne assiette et le bon plat et les bons instants. Et nous, on fait que ça, on met dans nos assiettes que des bonnes choses et ça se ressent.
Et t'as une histoire avec le poulpe. Si j'ai bien, à chaque fois, j'ai l'impression que ça revient sur la table parce que je crois que ton poulpe, il est quand même assez demandé, mais que tu le mets pas tout le temps à la carte, c'est bien ça?
Oui, en fait, c'est un travail qu'on fait depuis très très longtemps sur une recherche de saisonnalité. On dit qu'en fait la saisonnalité n'est pas juste dans les océans, elle n'est pas juste dans les terres, elle est aussi dans les océans. Il y a des périodes de reproduction, il y a des périodes où on doit laisser les espèces pouvoir reprendre du poil de la bête, c'est un peu le cas de le dire. Mais et en fait, on s'est rendu compte qu'on était en train de vider un peu les stocks de poulpe par des effets de mode. Et en fait, aujourd'hui, plus que le fait d'arrêter le poulpe, après toutes ces années d'expérience et toutes mes discussions avec des pêcheurs, avec des marins, avec des scientifiques et des gens qui cherchent, je me rends compte qu'en fait le vrai souci de la planète c'est une consommation de mode, et c'est une consommation où on va pointer un peu à un produit, on va essayer tous de le dévorer, le mettre tous à nos cartes, et on oublie d'autres. Je donne l'exemple souvent du bar, du turbo qu'on utilise dans les grands restaurants. On a l'impression que le bar, c'est un produit de luxe, et que le lieu jaune, c'est peut-être un peu moins un produit de luxe. Moi, je trouve que il n'y a pas de noblesse dans un produit. La noblesse, elle est faite par le producteur, par le cuisinier, par le serveur. La noblesse, elle vient de là. Mais il n'y a aucun souci à comparer une assiette de champignons de Paris à une assiette avec de la truffe. C'est le travail de la personne qui va cuisiner, qui va donner la noblesse au produit. Donc pour moi, aujourd'hui, je dirais que le pire ennemi de notre terre, de nos espèces, c'est la saisonnalité. C'est Moi, je dis mangez varié, quoi. Ne mangez pas que des sardines. Mangez du maquereau, mangez des mangez du de la barbue, mangez des merlans. Il y a tellement d'espèces exceptionnelles aujourd'hui, et je pense que la clé du succès, c'est cette variété.
Donc, pour toi, manger responsable, c'est varier, ne pas manger en excès d'un même aliment. Et puis peut-être manger aussi local. Toi, est-ce que tu t'approvisionnes chez les producteurs locaux?
Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui nous prend énormément de temps. Quand on ouvre un projet, on essaye de sourcer des fournisseurs, des producteurs qui sont un peu autour de nous. Là, on est sur un projet en Provence où on essaye de sourcer des gars qui ont des légumes prêts, et ça nous prend énormément de temps. C'est une logistique énorme à gérer, mais oui, aujourd'hui, on essaye en plus, par exemple, avec nos poissons, on bosse avec Marégouste, qui est un pêcheur en Méditerranée, qui fait ça avec tellement de respect. On bosse avec Alain Tesson en Normandie, voilà, on a plusieurs fournisseurs, et on n'en a pas qu'un seul, d'ailleurs, parce que c'est là où on peut aussi, des fois, tomber un peu dans la simplicité, la facilité. On essaye d'avoir plusieurs fournisseurs et de donner du travail à tout le monde, quoi.
C'est top. Et du coup, dans tes cartes, donc pour contextualiser, on trouve quand même aussi un peu de viande parfois. Mais c'est en fait tu proposes toutes sortes de plats. Ça va du vegan au on va dire au flexi, à celui qui peut aussi manger de la viande, non?
Moi aujourd'hui, ce que je voulais, c'est faire comme je te le dis, c'est la variété, c'est avoir l'option pour tout le monde. On va utiliser oui de la viande, mais on va aller la sélectionner. On a un plat qui fonctionne hyper bien, c'est les nuggets de poulet Avida, mais c'est une volaille Jean des Landes élevée en plein air, c'est nourri au maïs, c'est pas des bêtes qui sont en cage. On travaille avec sur les bœufs, on essaye de travailler sur des bœufs français pareil, qui sont enfin des animaux qui souffrent pas pendant cette période d'élevage ou de production de l'élevage de l'animal. Donc on essaye de respecter toute la chaîne, et il y a pas mieux de connaître le producteur, connaître l'origine de son produit. Et c'est un peu le succès de l'histoire aujourd'hui, je pense. C'est qu'on a su choisir les producteurs, les éléments, et derrière, on a des équipes qui cuisinent vachement bien, donc ça aide.
Et est-ce que tu penses que tu as réussi à en convertir certains, justement, à cette variété, cette diversité, et que du coup, les gens consomment peut-être moins de protéines animales, davantage de protéines végétales? En plus, je crois que tu as sorti un livre récemment, non?
Ouais, j'ai sorti mon livre Cuisine et partagée, où d'ailleurs le légume a énormément de place dans ce bouquin.
Ah, je suis une fan de légumes, moi, donc.
Voilà, c'est un produit, je trouve que c'est un univers énorme, tu vois.
Il y en a tellement de toutes les couleurs et tout.
Ah ouais, avec les viandes, on va rôtir, braiser, barbecue, et puis, mais les légumes, j'ai l'impression, enfin, t'as tellement un univers éternel presque. C'est dingue, et je trouve que là, le fait qu'on doive attendre une certaine période pour manger les meilleures tomates, les meilleures fraises, là, je trouve que c'est limite, c'est poétique, tu vois. On attend tous, les chefs, on attend les premiers petits pois, les premières asperges, les premiers abricots, les cerises. C'est dingue, cet engouement qu'il y a pour l'attente du produit. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça horrible, le gars qui se fait une assiette de framboises en décembre en se disant, je m'en cogne, moi, ce que je veux, c'est les framboises.
Je suis entièrement d'accord.
Enfin, je trouve ça tellement triste. On tue un savoir-faire, on tue quelque chose qui, comme je te le dis, pour moi, c'est poétique, ça a un charme qui est
incroyable. Et je sais pas si tu penses comme moi, mais pour moi, si les fruits ont une saison, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, l'être humain doit s'adapter à la saisonnalité. Moi, franchement, je me suis toujours dit ça. Je me dis, pourquoi est-ce que je veux contraindre la nature à me donner ce qu'elle n'a pas? C'est-à-dire, à cet instant T, bah, moi, je vais justement profiter, par exemple, en hiver des agrumes, et puis là, du melon, de la pastèque, parce qu'il fait chaud et que ça va me rafraîchir. Mais tu vois, je pense qu'il y a bien une raison. Et le problème, c'est que le consommateur, parfois, en demande trop. Je sais pas si tu avais suivi, d'ailleurs, l'affaire des fruits et légumes moches, lancée, c'était par Intermarché, qui, du coup, était en rupture de fruits et légumes moches, mais que le consommateur en exigeait. Donc, c'est, en fait, c'était devenu, il fallait produire pour une nouvelle demande. Donc, ça devient quand même un peu compliqué. Est-ce que toi, parfois, t'as aussi des demandes un peu folles comme ça, où t'es obligé de répondre par la négative, de leur dire, non, je suis désolé, mais, là, on en a plus, ou, c'est pas de saison, ou, voilà, comment tu fais si c'est le cas?
Nous, on le fait, le gars qui me demande un fraisier en décembre pour son anniversaire, Non, on n'en fait pas, nous. Mais pour nous, c'est plus simple parce que nous, on a un restaurant, on crée nos cartes et le client, il mange. Tu vois, quand on fait des repas en extérieur, on fait des propositions de dîner. Et puis, si la personne n'est pas contente avec et qu'on n'arrive pas à trouver une entente parce que ça va pas avec notre philosophie, nous, on préfère tout simplement pas le faire. On va pas se prostituer pour faire un dîner. Hein. Nous, ce qu'on aime, c'est être aussi assez fidèle à notre démarche. Et donc, voilà, il y a plein de choses dans lesquelles on n'a pas voulu. On n'a pas voulu rentrer parce que c'était pas en accord de notre philosophie. Donc oui, on a plein de fois et plusieurs fois, on a été contraint de dire non. Ouais.
Et toi, t'es arrivé en France, t'es né en France ou t'étais né
Non, moi je suis colombien. Je suis né à Bogota. Mm-hmm. D'une famille, j'ai deux frères, papa, maman, qui sont toujours ensemble, très heureux. Famille avec beaucoup d'amour. Et je suis arrivé en France à 18 ans avec le rêve d'un jour. Pouvoir ouvrir un restaurant. Je rêvais de, avant mes 40 ans, ouvrir mon premier restaurant. J'en ai 32, j'en ai 6, ça va, on est un peu dans les...
Donc, tu vois, les 4, ils ont le temps, t'inquiète, t'as le temps pour les 4 nouveaux.
On a pas mal bossé, du coup.
C'est pas mal. Ouais. Alors, c'est génial. Et donc, du coup, on retrouve forcément une inspiration colombienne dans tes plats, je pense. Enfin, ouais. Pour les avoir goûtés, j'ai envie de te dire oui, déjà, parce que j'ai déjà testé. Mais même l'ambiance et la chaleur, c'est vrai que on se sent un peu voyagé.
Bah, écoute, ça dépend des restaurants. Moi, c'est dur à dire. Je pense que ce qui était ma faiblesse est devenu ma force. Moi, j'avais pas forcément de plat signature, j'avais pas forcément un style marqué parce que je suis colombien, j'ai bossé en France, j'ai bossé avec des Italiens, des Israéliens, bref, j'adore voyager. Donc, ce qui était ma faiblesse de ne pas peut-être avoir un style bien marqué est devenu ma force. Aujourd'hui, ma cuisine n'a pas forcément de frontières. Elle a pas un passeport fixe, tu vois. Elle voyage. À chaque fois que je reviens d'un pays, je ramène une épice, un souvenir, une herbe, une technique. Et je m'imprègne de ça. Et c'est mon grand kiff, en fait. C'est mon grand kiff de revenir à chaque fois un peu comme un gamin. J'ai l'impression de j'évite de regarder aujourd'hui des livres ou des recettes d'autres chefs pour garder une espèce d'innocence culinaire, je dirais, comme un enfant qui voyage et qui s'imprègne de cuisine un peu. C'est ce qui m'est arrivé avec la Grèce. Hein. Moi, je suis allé en Grèce faire les récoltes. J'ai fait une bouteille avec les frères Kallios, les frères Chantios. J'ai été manger chez la Yaya, ça veut dire la mamie, une trentaine de fois. Je dormais à la maison, je faisais tous mes récoltes. Au bout d'un moment, enfin, ma cuisine avait des notes grecques dans tous les sens, tu le sentais. Et on a décidé d'ouvrir Yaya, le premier il y a 3 ans, le deuxième on l'a ouvert il y a 1 an et demi. Voilà, c'est des process. Moi, je m'inspire aujourd'hui. J'ai envie de revenir un peu à mes sources. Je suis en train de préparer une ouverture d'un restaurant colombien. On vit un peu au jour le jour, et c'est ça qui me fait kiffer. Ma cuisine n'a pas de frontières. Elle surfe un peu la vague et elle se laisse aller, quoi.
Mais tout en restant responsable. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses, toi, avec, je sais pas si on va dire avec le confinement ou juste simplement l'évolution naturelle de la demande, que les gens vont consommer davantage responsable ou pas? Ou est-ce que c'est une vaste utopie? Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as pu le quantifier ou le qualifier depuis que tu as ouvert tes restaurants, davantage de demandes de plats sans viande ou voilà, de personnes qui font attention et pas uniquement une certaine classe de la population?
Ouais, moi je pense que après je suis un éternel positif, moi. Hein. J'aime bien, je suis heureux et j'aime croire, je crois dans les gens, j'ai beaucoup d'espoir. Et oui, j'espère que les gens ils se rendent compte. Une des bonnes choses, parce que le corona c'était une énorme catastrophe économique, c'était une énorme catastrophe pour nous tous, humaine, sociale. Mais il y a des bonnes choses qui sont sorties de là. Une de ces choses, c'est qu'on a vu un pourcentage baisser dans les grandes surfaces. On s'est rendu compte que les gens avaient peur en fait d'aller au supermarché. Ils se dirigeaient plutôt vers le voisin. Je parle plus en province qu'à Paris, hein. Mais en province, on allait chercher sa volaille à côté, son petit lapin, ses tomates, et on mangeait plus local. Et on s'est rendu compte que les chiffres des grandes surfaces avaient perdu un peu de marché. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses, et je pense que les gens, une fois qu'ils goûtent au bon produit, ils peuvent pas faire machine arrière.
Je suis entièrement d'accord.
Nous, on est des petites influenceurs à notre échelle, pas un influenceur dans le sens terme où je me poste avec une crème ou un parfum. Mais le mot influenceur, ça veut dire que tu influences une communauté.
Bien sûr.
Et la personne qui est suivie par 10 personnes influence ces 10 personnes. Donc, faut pas se tromper. Moi, je pense que aujourd'hui, on a une certaine responsabilité. Il faut partager les bons messages. Nous, on partage des messages de consommer mieux, de mieux manger, de consommer plus durable, plus local. Et je pense que ça tombe pas dans les oreilles des sourds. Je pense que les gens entendent et les gens font de mieux en mieux. Moi, j'y crois et j'espère que plus le temps avancera, plus les gens feront attention.
Et quel chef cuisinier t'inspire? Enfin, si tu devais m'en citer un chef qui t'inspire.
Julien Dubouet, parce que c'est un très bon pote, parce que je me suis toujours inspiré de sa façon de voir le business, parce que c'est quelqu'un d'entier, parce que il est comme un frère, hein, c'est vraiment un très bon ami. Je pense à Passard, par exemple, qui a pris des énormes risques en changeant sa rôtisserie pour un restaurant de légumes, et c'est le premier 3 étoiles qui faisait que des légumes.
Génial.
Je pense à des gars aussi qui ont des cuisines qui volent, qui voyagent, où je me régale, comme Denis Broisi, avec lequel on a discuté il y a quelques mois, et Mauro Colagreco dans la boucle aussi, il a lancé ça, ouais, pour essayer avant la fin 2020 de ne plus avoir de plastique, aucun plastique dans nos cuisines, que ce soit les sacs de films, que ce soit tout type de plastique. Donc ça, c'est un énorme travail sur lequel on bosse. Donc
toi, t'as déjà réduit en plus, je crois bien. Toi, t'as déjà réduit.
Beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en compostable. Toute la partie en takeaway est compostable au maximum. On avait, parce que la proposition était vraiment 100% plastique pour le coup sur le takeaway. Et aujourd'hui, on travaille, on essaye de trouver des options alternatives. On va challenger aussi les entreprises pour essayer de trouver des choses mieux. Donc, non, en vrai, on est très très content des avancées qu'on arrive à avoir, et on espère, oui, avant fin 2020, qu'il n'y ait pas un seul gramme de plastique dans ma cuisine.
Oh, c'est, tu vois, j'ai te demandé quel était ton challenge, donc je crois que c'est celui-là, non? T'en as un autre ou pas?
Il n'y a pas plus beau challenge que celui-là.
Ah, il est magnifique. T'en as un autre ou pas de challenge? Comme ça, on va te faire tes bonnes résolutions 2020, le 10 juin, tu sais, genre. Mais faut dire, elle a été quand même douloureuse cette année 2020. Enfin, elle n'a pas été facile, hein. Donc, on a le droit de les prendre maintenant.
Les restaurateurs et les commerces, on a pris quand même très cher parce qu'il y a eu la grève, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu
le
Covid, et on a pris très très cher. Je trouve qu'on est quand même dans un pays incroyable. Il y a eu des millions de personnes, des milliards de personnes dans le monde entier qui étaient complètement abandonnées par l'État. En France, personne n'était abandonné. Tout le monde touche son salaire. Tout le monde a son chômage. Tout le monde, au niveau de la santé, était accueilli. Enfin, il y a des lieux dans le monde où il n'y a rien pour personne. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Nous, on a beaucoup souffert, et je voyais que les gens voulaient revenir dans les rues, critiquer, aller faire des grèves au mois de septembre.
Non, allez consommer plutôt que faire des grèves, les gens. Allez consommer, allez en terrasse. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Il va vous accueillir, Juan. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Si, pour la meilleure manifestation qui soit en ce moment, c'est d'aller consommer. Ceux qui peuvent. On va pas encourager ceux qui ne peuvent pas. Bah, bien sûr, on va pas vous forcer à aller consommer. Mais il y en a qui ont pu épargner pendant cette période de confinement et qui peuvent retourner en terrasse avec les mesures de précaution. Et ça, c'est clair que. Mais d'ailleurs, il y a bientôt, ce sera peut-être la réouverture complète, pas uniquement des terrasses. T'as réussi à bien réaménager tous tes restaurants, toi, en fonction des normes sanitaires? Ou finalement, tu fais que du takeaway?
On a fait quelques terrasses dans les places de parking, on a fait quelques terrasses dans les passages, dans les rues piétonnes, dans les espaces où on pouvait, des petites places qu'on avait en face. On a réussi un peu à se débrouiller. C'est pas facile, hein, je t'avoue, c'est un travail de titan. Je pense à Julien Dubois aussi, parce qu'il m'a laissé les tables. Il est passé me déposer quelques tables aujourd'hui pour pouvoir continuer à travailler en terrasse. Donc c'est un travail de titan, surtout que pour nous, la restauration est un métier de geste, est un métier où chaque mouvement doit devenir un peu presque mécanique et même plus réfléchir. Et aujourd'hui, on nous a changé des années de travail. On va mettre du temps à s'adapter, hein, mais on est dans le bon chemin, je pense. Et oui, on a réussi à bien s'adapter. On peut pas se plaindre non plus.
Petit à petit, on va se réadapter. Et puis, c'est vrai que toi, dans ta cuisine, il y a la chaleur humaine, et toi-même, ça doit être frustré de ne pas pouvoir être plus en contact avec les gens, je pense. Mais écoute, on va s'adapter, puis je pense que le meilleur reste à venir. Peut-être que les gens vont avoir tellement envie de passer leur été en terrasse, justement, ou pour déguster des plats, et il faut rester positif comme tu l'es. Très bien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, des choses que j'aurais pas évoquées avec toi?
Bon, écoute, je pense qu'on a.
Des engagements personnels ou autres.
Et en France, on a décidé d'arrêter de prendre l'avion avec Laurie.
Oh.
Ça, c'est un petit choix. Je peux pas arrêter l'avion parce que sinon, je verrai plus jamais ma famille.
Mais en France, mais au moins pour vous déplacer en
Et en
France.
France, tous les déplacements qu'on arrive où on a la possibilité de faire en train ou de faire en voiture ou de faire en covoiturage où on essaye de réduire au maximum. Voilà, on fait aujourd'hui notre propre compost à la maison. Ils ont décidé d'arrêter le compost dans notre rue et dans notre quartier, et nous, on a décidé de continuer. On a créé une poubelle.
Pourquoi ils ont décidé ils pouvaient plus prendre en charge, vous savez pas
Je ne sais
quoi.
pas si c'est une question de moyens ou si c'est le Covid ou
Ouais.
j'arrive pas, je saurais pas te dire, mais voilà, nous, on a décidé de continuer, même si les moyens sont un peu compliqués. Nous, on a décidé de le mettre dans une copropriété, là où on est, un petit compost qu'on a fait nous-mêmes.
Les irréductibles gaulois. Non, c'est génial. Ben, écoute, Juan, j'étais ravie. Merci de m'avoir accordé ce temps, cet échange. J'ai hâte de retourner déguster de nouveaux plats puisque je sais que tu changes fréquemment tes cartes. Donc ça, c'est génial. Et c'est toujours, on redécouvre toujours ta cuisine. Et puis, je te souhaite du coup d'aller bien et que le business reprenne et voire même se pérennise et que tu puisses ouvrir tes 4 restaurants prochainement. Et voilà. Et puis bah à très vite et merci. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Vous pouvez aussi nous mettre, si vous le souhaitez, ça nous ferait très très plaisir, 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, on est aussi une newsletter à retrouver. Très fréquemment avec des news sur la RSE et l'écologie. Je vous embrasse, prenez soin de vous.